Dans Néhémie, au chapitre 2, merci, musicien. On va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Père éternel, quelle grâce tu me fais, quelle ironie, Père, de ce qu'une personne comme moi puisse apporter ta parole. Toi, Seigneur, qui connais mon histoire, toi qui connais mon cœur, toi qui connais mes faiblesses, toi qui connais mes luttes, quelle ironie, Seigneur. Un être pécheur comme moi puisse parler d'un Dieu saint. Seigneur, c'est ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus, qu'une œuvre spirituelle, un temps soit peu spirituelle, puisse venir d'un être comme moi, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus, que nos louanges ce matin peuvent être admises et agréables à tes oreilles, Seigneur. Sans ta grâce, tout le reste n'est que religion. Un bête formalisme. Une piété vide. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus, que nous persévérons dans tes voies, que nous cherchons ta face. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous avons tourné les regards vers toi. Père, je ne suis pas rassasié. Père, je ne suis pas satisfait. Je te demande pour cette Église, pour mon propre cœur et pour toute cette assemblée, Seigneur, une fraîche manifestation de ta grâce dans nos cœurs, Seigneur. Renouvelle en nous un cœur qui te plaît. Renouvelle, rafraîchis notre zèle pour celui qui s'est donné pour nous à la croix. Éveille en nous, Seigneur, des sentiments digne du sacrifice de Jésus-Christ. Chasse de nos vies, Seigneur, toute apathie, toute paresse spirituelle crasse, Seigneur. Chasse de nos vies tout ce qui viendrait faire compétition à ton nom dans nos cœurs. Et j'en appelle à ta grâce, à une fraîche manifestation de ta grâce, parce que sans l'œuvre de ton esprit, Père, sans l'œuvre de ton esprit, nous allons rester où nous sommes, Seigneur. Mais je te connais. Je te connais, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie, puis tu as donné ta parole, que tu terminerais l'œuvre que tu as commencée en nous. C'est là qu'est mon espoir, Seigneur. Pas dans mes forces, pas dans la prédication, mais en toi. Alors, je te prie de saisir nos cœurs, Seigneur. Parle-nous à travers cet homme de Dieu, Néhémie. Parle-nous à travers ton œuvre à la croix, Jésus. Merci pour ce que tu as commencé dans quelques cœurs, Seigneur. Ce que j'entends, qui me touche et m'humilie. Parce que ça me parle de toi. Ça ne me parle pas de moi, Seigneur. Ça me parle de toi et ça m'humilie. Et c'est bon, ça me touche, Seigneur. J'en veux plus. Je suis insatisfait, mon Dieu. J'en veux plus. plus de toi encore. Et Seigneur, à celui au milieu de nous qui est satisfait, qui est content d'être assis, sans vie, saisis-le par ta grâce. Saisis-le par ton esprit, Seigneur. Toi, saisis-le, Seigneur Jésus, comme tu m'as saisi, Seigneur. Afin qu'il pleure et qu'il verse des larmes de joie, Seigneur. Que son cœur reprenne vie, parce que tu es la vie. Seigneur, j'aimerais te prier pour notre sœur Marisol qui est au Chili auprès de sa maman. On me dit, Seigneur, qu'elle est dans ses derniers jours, une dame religieuse, une dame avec une certaine piété, mais qui a besoin de recevoir la grâce de l'Évangile, Seigneur. Je te prie, Père, de remplir Marisol de ton esprit. Remplis-la de ton esprit. Sois avec elle, Seigneur. Sois avec son cœur, sa foi, sa bouche. Seigneur, qu'elle soit prophète dans son pays pour annoncer l'Évangile. Et viens en sauver quelques-uns, Seigneur. Viens faire grâce à sa maman. Viens faire grâce à sa maman. J'invoque ta parole, Seigneur. Tu dis que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Sauve sa mère, Seigneur, je te le demande. Je te prie pour Luce, Seigneur, qui a été, Luce Laframboise, qui a été opérée. Il y a eu quelques complications. On te demande de la relever, de la bénir. Je te prie pour ceux et celles qui sont retenus à la maison par la maladie. Console leur cœur. Aide-nous à les entourer cette semaine. Apporte-leur, Seigneur, ta parole avec tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont éloignés, dans lesquels les ruines de leur vie sont manifestes et évidentes. Ramène-les à la maison, Seigneur. Tu les connais. Je les amène devant toi dans la prière, Seigneur, lorsque je suis avec toi seul. Toi, tu les connais, Seigneur. Ramène-les. Entends nos prières, Seigneur. Il n'y a pas de bonheur pour eux loin de ta face. Fais-leur grâce. Je te prie d'être avec ton serviteur ce matin, d'être avec tous tes serviteurs, toutes tes servantes ici ce matin, de parler à nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, Néhémie 2, versets 1 à 10. Néhémie 2, 1 à 10. Vous pouvez tourner avec moi dans la parole de Dieu. Apportez vos Bibles quand vous venez à l'église le dimanche matin. On veut lire ensemble dans la Bible. Si vous n'en avez pas, on peut vous en prêter. Il n'y a pas de problème. Juste lever la main. Je pense que les placeurs, on pourra voir et puis peut-être vous apporter une Bible. D'accord? Néhémie 2, les versets 1 à 10. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans la prière, je suis touché puis je suis humilié de voir l'œuvre que Dieu est en train de faire dans quelques cœurs. Et je suis encouragé de voir que Dieu veut parler à nos cœurs à travers sa parole parce que des gens viennent me partager un peu ce que Dieu est en train de leur montrer. La semaine dernière, il y a un frère qui est venu me voir et qui s'identifiait avec la prédication en disant « Dieu, ouvre mes yeux et je vois tellement de ruines dans ma vie et dans les vies autour de moi que je suis exactement à ce moment-là où j'ai besoin d'aller dans la prière pour trouver la foi. » Mais comprenez-moi bien, quand quelqu'un vient te voir et te dit ça, tu as juste envie de pleurer de joie parce que c'est une œuvre spirituelle. On a autre chose à faire que chercher la face de Dieu et chercher la sainteté, si ce n'est de l'œuvre que l'Esprit fait dans nos cœurs. Il y a d'autres choses plus le fun à notre chair que de chercher Christ et sa gloire dans nos vies. Et lorsque quelqu'un vient me voir et me dit, « Yannick, il y a tellement de ruines, j'ai le souffle coupé, j'ai besoin d'aller dans la prière. » Mon cœur pleure de joie, vous comprenez? Parce que c'est avec un cœur semblable que l'Esprit peut faire une œuvre. Parce que cette manifestation d'un cœur brisé devant Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas une œuvre charnelle. C'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Cette semaine, on a inséré dans le feuillet, dans le 9-1-1, un petit outil pratique où on a simplement énoncé les 5 éléments que j'ai fait sortir de la prière de Néhémie. Vous le trouvez dans le feuillet, vous pourrez le prendre au kiosque si vous ne l'avez pas. Je veux vous encourager à glisser ça dans votre Bible, d'accord? Dieu ouvre vos yeux, vous montre des choses. Commencez par aller dans la prière, prenez cet outil-là. Au cours des prochaines semaines, au fur et à mesure qu'on va avancer à travers le livre de Néhémie, on va ajouter des éléments à cet outil. Il y aura comme d'autres éditions de ça. Parce que nous voulons apprendre avec Néhémie à reconstruire. Non seulement à prier, mais à reconstruire. Et donc, je vous invite à remplir tranquillement ça pour apprendre à prier. Pour apprendre à reconstruire comme un homme et une femme de Dieu sont appelés à le faire. Mettez-le dans votre Bible, commencez à le remplir. Utilisez-le dans la prière. Et puis, on va ajouter d'autres éléments. Continuons à prier et à chercher la face de Dieu. Le travail que Dieu veut faire en nous et autour de nous est énorme. Mais le Dieu que nous prions, ce n'est pas un petit Dieu, c'est le Dieu de Néhémie, c'est le Dieu des cieux. Amen. L'ouvrage à accomplir n'est pas trop grand pour Dieu. Alors continuons à prier. C'est le Dieu des cieux que nous prions. Un roi comme le roi Artaxerxès sont peu de choses devant Dieu. Que dire de mon cœur à moi et de ma vie? Mon Dieu est assez grand pour faire l'œuvre qu'il a commencée. Je sais qu'il y a un combat à gagner dans la prière, frères et sœurs. Il y a un combat à gagner parce que le découragement va venir. Vous allez avoir le goût d'abandonner, de vous relâcher. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que cette Église soit remplie de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de ça? L'ennemi de vos âmes ne veut pas que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vous seriez beaucoup trop heureux, bien trop heureux en Jésus-Christ, bien trop libre. Son plaisir est dans votre destruction, la destruction de votre témoignage, de vos familles, de vos foyers, de vos relations, de votre joie, de votre paix. Son plaisir est là. Alors, continuons à lutter dans la prière. Le combat va être long, mais Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu. À nous d'avancer par la foi maintenant. J'ai reçu un courriel, quelqu'un me posait une question sur toute la question de la confession que j'ai abordée la semaine dernière. C'était une bonne question, à savoir lorsque j'ai dit que lorsqu'on veut intercéder pour quelqu'un, on peut confesser les péchés de cette personne. Il y aurait beaucoup à dire. Vous pouvez aller voir dans Job, par exemple, qui offrait des sacrifices pour ses enfants, des choses comme ça. Mais j'ai pris le temps de répondre à cette question-là sur ma page publique sur Facebook. Alors, vous pouvez juste aller lire ça, d'accord? Et vous allez avoir en gros un petit peu plus d'explications là-dessus, parce que je n'ai pas l'intention d'enseigner tout de suite sur ce sujet-là davantage. Mais c'est un aspect important de l'intercession, vous pourrez aller lire ça. Néhémie 2. Après avoir jeûné, après avoir pleuré, après avoir prié intensément pendant 4 mois, Néhémie est prêt à tout risquer pour pouvoir entreprendre la reconstruction. Néhémie est prêt à tenter le tout, pour pouvoir reconstruire sur les ruines que Dieu lui a montrées. Néhémie est un personnage extraordinaire, de sagesse, de zèle, d'action. Néhémie n'est pas un théoricien. En québécois, on dit ça, je ne sais pas comment Jenny va traduire ça en espagnol. Hein? Gros parleur, petit faiseur. Néhémie n'est pas comme ça. Néhémie est un homme d'action, c'est même un homme d'action violente. Êtes-vous d'accord avec moi si vous connaissez son histoire? Allez lire la fin de Néhémie cette semaine. Revenez la semaine prochaine, même si vous lisez la fin de Néhémie, je vais vous réconcilier avec ça tranquillement, d'accord? Mais Néhémie, c'est un homme d'action. Il est prêt à tout pour passer à l'action. Alors, ce n'est pas parce qu'il passe 4 mois dans la prière, à jeûner, à supplier l'Éternel qu'il n'est pas un homme d'action. C'est un homme d'action et ce n'est pas facile d'attendre dans la prière le moment de Dieu pour un homme d'action, pour une femme d'action. C'est pas facile. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu as le goût de t'investir. Si tu n'es pas un peu heureux, tu as le goût de défoncer. Mais lorsque tu as la connaissance de Dieu que Néhémie possède, quand tu as la théologie de Néhémie, quand tu crois dans la souveraineté de Dieu, quand le Dieu que tu pries n'est pas un petit Dieu qui aurait besoin que tu viennes à son aide, mais le Dieu des cieux, tu peux attendre en prière. Tu peux attendre son moment. Tu peux passer du temps dans la prière parce que le Dieu que tu pries doit te précéder. Il t'a ouvert les yeux, tu peux maintenant aller dans la prière parce qu'il doit te précéder dans ton action. Quand tu crois à la souveraineté de Dieu, comme Néhémie le croyait, même si tu es un homme, une femme d'action, tu peux passer 4 mois dans la prière et plus encore, attendant le moment que Dieu va te donner pour pouvoir passer à l'action. Néhémie croyait dans la souveraineté de Dieu. Il priait le Dieu des cieux. Le roi n'était qu'un homme à ses yeux. Je vous le rappelle à la fin du chapitre 1, verset 11. « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom, craindre Dieu plutôt que les hommes. Estimez davantage Dieu que les hommes. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce. » Devant cet homme. Parce que Néhémie priait le Dieu des cieux, le roi n'était qu'un homme. Il n'était qu'un homme. Et il avait besoin que le Dieu des cieux le précède, il pouvait attendre. Le Dieu de Néhémie pouvait lui donner de trouver grâce. De trouver grâce auprès des hommes, pour bénir ses projets auprès de n'importe quel homme. Auprès de n'importe quel homme. Et regardez sa conclusion, je l'ai lu tout à l'heure au verset 8. La fin du verset 8. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est pas au roi que revient ce mérite. Ah, c'était un bon roi, avec un bon cœur. Sûrement un homme sensible, de toute évidence. Particulier comme relation, ce que Néhémie avait comme relation avec lui, assez particulier. Mais Néhémie ne va pas attribuer le succès de son projet, de son entreprise, au cœur de ce roi. mais au fait que la main de Dieu était sur lui, sur son projet. Ça venait de lui. Plus loin, c'est ce qu'il va dire. C'est Dieu qui m'avait mis à cœur ce projet-là. Un homme d'action, une femme d'action, peut passer du temps dans la prière et attendre le moment de Dieu. Si sa compréhension, sa vision de Dieu est saine, il veut que le Dieu des cieux l'accompagne et le précède. Dieu peut te donner de trouver grâce auprès de qui il veut. Il est souverain. Est-ce que la reconstruction que Dieu a placée devant tes yeux, est-ce que les ruines qu'il t'a montrées pour rebâtir demanderaient que Dieu te donne de trouver grâce auprès d'autres personnes? Ça ne se fera pas tout seul. L'atmosphère dans ton équipe de travail à la job est pourrie. Et sans la collaboration de lui ou de lui ou de lui, il n'y a rien qui va changer. Tu voudrais que ça change. Tu peux travailler sur ton attitude, mais tu veux aller plus loin que ça. Et tu as besoin que Dieu te donne de trouver grâce auprès d'autres personnes. Est-ce que Dieu peut faire ça? Tu veux te réconcilier avec quelqu'un? On est deux dans cette affaire-là. Dieu ouvre mes yeux, je vois que la relation est brisée, elle est souffrante, elle est entachée par des blessures, par des péchés, par des offenses. Je voudrais me réconcilier. Il y a une ruine là, un témoignage défait pour le nom de Dieu. Dieu peut te donner de trouver grâce auprès de cette personne. Si c'est le projet que Dieu a placé sur ton cœur, va dans la prière. Dieu peut te donner de trouver grâce auprès de cette personne. Tu veux réunir la famille qui est séparée, qui est divisée depuis des années. Oui, mais il y en a qui ne sont pas chrétiens, tu ne comprends pas. Ils ne voient pas les choses comme moi. Come on, c'était un Dieu païen qui adorait des idoles, qui se prenait probablement pour un demi-dieu. Wow, il y avait toute une perspective spirituelle, ce gars-là. Est-ce que les ruines que Dieu t'a montrées vont demander la collaboration de quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi? Dieu peut te donner de trouver grâce auprès de cette personne. Et Dieu peut disposer son cœur. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu pries le Dieu des cieux ou tu pries une espèce de Dieu amulette à portée limitée, une patte de lapin qui est utile dans quelques circonstances? Si c'est le cas, commence à confesser. Ne cherche pas ailleurs, commence à confesser là. Seigneur, je n'ai pas foi en toi. Tu es tout petit. Ton domaine, ce n'est pas les cieux, ou sinon ce sont des cieux très éloignés de moi. Tu peux changer mon cœur, mais tu ne peux pas disposer le cœur des gens autour de moi. J'y crois pas, Seigneur. J'y crois pas, Seigneur. Dieu peut le faire. Si Dieu le désire, il peut te donner de trouver grâce et tu vas avoir la collaboration des gens qui, normalement, ne devraient pas t'être favorables. Et on va voir ensemble, il y a quelque chose d'insensé dans l'approbation que le roi donne à Néhémie. Ce n'est pas nécessairement un très, très bon calcul. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour planifier aussi. Néhémie est génial comme modèle. C'est pour ça que je vous dis et que je vous répète, je veux qu'on apprenne à reconstruire avec Néhémie parce que c'est pas simplement une histoire de succès. Cet homme-là était minutieux. Cet homme-là était à son affaire. Et ce temps qu'il consacre, ces 4 mois qu'il consacre à la prière, c'était pas simplement du temps pour gémir, pour pleurer, pour se plaindre devant Dieu. Dans toute la discussion avec le roi Artaxerxès qu'on voit ici, on voit que Néhémie avait utilisé ces 4 mois-là pour planifier ce qui s'en venait. Alors, non seulement il consacrait du temps physiquement, réellement, à la prière en jeu, un an. Ça ne peut pas être plus concret que ça. Seigneur, je vais t'exprimer ma dépendance totale envers toi. Je consacre du temps à ne pas manger pour te prier, Seigneur. Et je vais pleurer devant toi et je vais intercéder. Mais non seulement il faisait cela, mais Néhémie est un modèle de planification. Voyez-vous, pour Néhémie, ces 4 mois-là ont servi à récolter des informations sur ce qu'il y aurait à faire. Quand la question est venue, de la part du roi. C'est quoi ta demande? Je te reviens là-dessus. OK? Écoute, je ne m'attendais pas à celle-là. Là. Je te reviens là-dessus, on s'en parle la semaine prochaine. Non, Néhémie avait planifié. Il s'était renseigné. Tout porte à croire qu'il avait gardé contact avec Hanani. Et donc, il avait des informations sur les travaux qu'il avait à faire. Il y avait d'autres gens qui priaient aussi. C'est ce qu'il nous dit au verset 11. C'était une mission secrète, on va le voir un petit peu plus loin. Mais en même temps, il y avait quelques personnes dans son cercle. Les choses étaient planifiées. Néhémie est un homme de prière. Il est un homme d'action. Il n'est pas un homme impulsif et irréfléchi. Alors, si Dieu a ouvert tes yeux pour que tu vois des ruines, et dans ton cœur, tu sens que Dieu t'appelle à aller faire un travail de reconstruction, garoche-toi pas trop vite, s'il te plaît. Commence par prier. Et une des choses qui est merveilleuse avec Néhémie, c'est qu'on voit vraiment la rencontre entre un homme pratique puis un homme pieux. On a souvent cette image-là. Hein? Vous avez certainement cette image-là de moi, par exemple. Ah, c'est le pasteur. Ah, un gars de prière. C'est pas des gars pratiques, ces gars-là. On a souvent cette image que l'homme spirituel n'est pas concret, il n'est pas pratique. En Néhémie, on a un modèle extraordinaire de minutie, de retenue, de finesse, de sagesse, d'intelligence et de piété. Et donc, on voit vraiment la part de l'homme qui dit « ça, c'est ma partie, je vais m'organiser, on va avancer, on va planifier les choses. » Et en même temps, on voit cet homme qui va tout attribuer à Dieu. Il a besoin de la bénédiction de Dieu. Dieu t'a montré des ruines. Comment tu vas t'y prendre? Quand il va dire « go », qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à prier? C'est quoi que ça demande? Réconciliation, ça demande peut-être d'apprendre à demander pardon. Et c'est le temps de lire. Commence à lire. Prie, puis lis. Non, mais Dieu m'a montré que mes finances, t'as des ruines. Hein? Ça ne sera pas juste avec la prière que tu vas y arriver pour celle-là, je peux te le dire. C'est mieux de commencer à planifier un bon cours. Puis la redevabilité aussi, parce que ça ne s'est pas passé tout seul. Tu auras besoin d'un peu d'encadrement, mon ami. Qu'est-ce que tu es en train de planifier pendant ce temps de prière? Voyez-vous? Néhémie n'est pas seulement dans la prière. Il est en train de préparer, de structurer, de planifier. Et quand Dieu va lui dire « go », il est prêt à passer à l'action. Il a déjà son plan de match en tête. Dieu t'a montré des ruines? Commence à prier, élabore un plan de match. Comment est-ce qu'on va sortir de là? Comment on va les reconstruire? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je m'en vais? Cherche la sagesse. Néhémie donne toutes ses réponses au roi et on voit très, très bien que Néhémie avait préparé. C'est le temps maintenant de le faire. Si tu n'as pas de plan de match, c'est le temps d'aller chercher conseil. Va voir des sages conseillers pour dire « Dieu m'a montré des ruines, je suis dans la prière, je suis en train de confesser, je suis en train de chercher la grâce de Dieu, mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je n'ai pas cette sagesse-là. Moi, je ne suis pas un Néhémie. » C'est bon, tu es là pour apprendre. Va voir des sages conseillers qui vont te dire comment. Tu vas voir ton cœur aussi à travers leurs conseils. Ton cœur va être dévoilé et tu vas dire « No way, pas par là. Tu sais, c'est correct, continue à prier. C'est pas le temps encore. C'est pas le temps encore. Tu n'as pas eu le go de Dieu, je peux te le dire. » Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour planifier et il y a un temps pour être prêt à tout risquer. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour planifier et il y a un temps pour être prêt à tout risquer pour reconstruire. Il y a un prix à payer pour reconstruire, les amis. Il y a un prix à payer, quel qu'il soit ton temps, ton énergie, ton orgueil, ton gros ego, je ne sais pas c'est quoi. Il y a un prix à payer pour reconstruire. Des loisirs qu'il va falloir que tu sortes de ta vie, quelques idoles à mettre sur le bord du chemin mardi matin. Il y a un prix à payer. Néhémie est un modèle parce qu'il est prêt à tout risquer. Il faut saisir la situation de Néhémie, d'accord, pour mesurer un peu ce qu'il est en train de mettre en jeu. Néhémie se présente devant le roi et ultimement, ce qu'il attend, c'est que le roi renverse une décision précédente qu'il avait prise. Dans Esdras 4, nous voyons que le roi avait ordonné d'arrêter les constructions. Néhémie s'en va devant le roi pour lui dire, j'aimerais ça que tu changes d'idée. C'est un roi. J'aimerais ça que tu changes d'idée et que tu m'envoies dans la ville que tu as envahie pour que je puisse aller construire des murs pour la fortifier. La relation de confiance est mieux d'être solide, hein? Parce que la prochaine étape après, c'est une armée que je lève pour aller trouver notre indépendance, notre autonomie. Comment est-ce que le roi va recevoir cette requête-là? Clairement, Néhémie a mis au minimum son poste en jeu. Parce que les gens qui étaient les conseillers tout près du roi et les historiens, dans les lectures qu'on réussit à trouver, nous disent souvent que ceux qui vont être comme ça, échansons du roi, c'était pas juste le barman, c'était comme des fois ça se passe dans des bars, le confident. T'sais. Ça va plus loin que ça. Et c'est les conseillers. Et Néhémie risquait de perdre la faveur du roi en adressant une requête où le roi devait changer d'idée, devait lui donner la possibilité même de mettre des choses en place qui avaient déjà été perçues sous Esdras comme une possible rébellion. Il y avait la possibilité que le roi fasse avorter ses projets et Néhémie avait peur. Quand le roi a vu qui avait sa grosse baboune d'en face après 4 mois, le roi lui a dit, « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Il dit, « Je fus saisi de crainte. » Pourquoi exactement? Au moins pour son projet. Ça fait 4 mois que cet homme-là prie, pleure, jeûne, cherche la face de Dieu. Tout peut avorter juste là. Mais plus encore, il pourrait perdre son poste, peut-être perdre la tête. Littéralement, je veux dire. Vous savez, on dit souvent que nous pouvons glorifier Dieu avec notre travail. Et c'est vrai. Celui qui remercie Dieu pour le travail que Dieu lui a donné et qui s'applique à avoir un bon témoignage impeccable en travaillant consciencieusement et en cherchant des occasions de témoigner est en train de servir Dieu à son travail. Néhémie avait compris cela. Néhémie, c'était l'employé modèle, c'est l'employé du mois, il était l'exemple même. Il était agréable au roi. Néhémie voyait ce poste-là comme une bénédiction de Dieu dans sa vie, littéralement, et il s'appliquait à satisfaire ce roi-là. Remarquez bien que Néhémie ne méprisait pas le poste qu'il avait. J'entends déjà quelques super spirituels dire, « Ouais, mais si tu savais, tu sais, ça, c'est des choses terrestres, puis ça n'a aucune importance. » Néhémie est en train de servir un roi païen. Je suis pas sûr que ce qui sortait de la bouche de ce roi-là, après la 4e coupe que Néhémie lui apportait, était toujours édifiant. Et ce qui se passait dans cette cour-là, je veux dire, ça ressemblait peut-être aux petites vues par moment. Je m'excuse. Mais Néhémie était consciencieux, appliqué, convaincu que c'était une grâce de Dieu. C'était un employé modèle. Et il s'était appliqué à développer une bonne relation avec le roi. Donc, Néhémie, c'était un bon chrétien qui a un bon témoignage, si je peux dire. Maintenant, Néhémie va plus loin. Pour lui, le poste que Dieu lui avait donné n'était pas une fin en soi. C'était une bénédiction pour lui. Mais c'était surtout un outil possible pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, sans hésiter, Néhémie est prêt à mettre en péril son poste. Est-ce que tu vois ton travail comme ça? Est-ce que tu vois ton travail, premièrement, comme une bénédiction que tu as reçue, un champ missionnaire où Dieu t'a placé pour pouvoir témoigner, et ça s'arrête là? Où est-ce que tu dis, ça se peut que Dieu me place dans telle ou telle situation, dans tel ou tel poste, et que je doive un jour risquer ça ou quitter cela pour pouvoir servir Dieu? Par réflexe, on a tendance à penser aux situations où quelqu'un, un chrétien, va quitter un emploi parce qu'il doit fuir le mal. D'accord? Et penser à Joseph qui a dû quitter un poste pour fuir le mal, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une chose. Mais Néhémie, ce n'est pas pour fuir le mal qu'il va mettre son poste en péril. C'est simplement parce que Dieu lui a donné une position qui devait servir à être risquée pour l'avancement des choses de Dieu. Est-ce que tu es prêt à mettre en péril à risquer ce qu'il faudra risquer pour reconstruire. Il y en a un autre, bien plus grand que Néhémie, qui a été prêt à risquer beaucoup plus que Néhémie pour le salut de nos âmes. Tournez avec moi dans Philippiens, Philippiens 2. Néhémie était prêt à tout risquer pour servir son Dieu. Mais moi, si je vous parlais ce matin de Christ qui a été prêt à tout risquer pour le salut de vos âmes. Est-ce qu'on s'entend pour dire que Jésus avait une position pas mal plus intéressante que celle de Néhémie? Il était dans la gloire, dans la félicité, sans épreuve, célébré, adoré par les anges. Dans Philippiens 2, verset 4, on lit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. » Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que Christ était prêt à abandonner pour servir son Père, pour le salut de vos âmes, de votre âme, de mon âme. C'est pourquoi aussi Dieu, verset 9, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Christ a risqué la gloire, a risqué la présence de Dieu pour le salut de ton âme, de mon âme. Est-ce que tu es prêt à tout risquer pour reconstruire sur les ruines que Dieu t'a montrées? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? C'est ça un disciple de Jésus-Christ. C'est l'imiter, le suivre, simplement par reconnaissance. Et dire, Seigneur Jésus, tu as tout risqué pour mon âme, je ne m'appartiens plus. Serait-ce mon poste, serait-ce mon ego, serait-ce ma réputation, serait-ce une amitié, serait-ce une relation, serait-ce ma maison, je suis prêt à tout risquer, à tout quitter pour reconstruire, pour faire avancer ton témoignage. Alexandre Marquis. Alexandre était ingénieur. Il a quitté ce poste-là, cette carrière-là, pour se lancer dans les études. Pas de garantie. Ça paraît pas bien hein, dans un CV quand après 3-4 ans, tu es allé étudier en théologie puis tu veux revenir comme ingénieur. C'est weird. C'est vraiment bizarre. Mais Alexandre a quitté un poste d'ingénieur pour aller faire des études en théologie pour l'avancement du royaume. Et je le donne en exemple parce que des hommes semblables méritent de vous être donnés en exemple. Ils sont une inspiration, des modèles pour nous. Qu'est-ce que Dieu te demande d'être prêt à abandonner pour reconstruire? Si tu ne le sais pas encore, va dans la prière. Il y a un prix à payer pour reconstruire, je te l'assure. Je te le garantis. Trouve-le, identifie-le et dépose-le au pied de la croix. Frères et sœurs, Dieu a commencé une œuvre au milieu de nous. Je l'ai dit dans ma prière tout à l'heure, je suis insatisfait, profondément insatisfait. Je vais dans la prière puis je dis, Seigneur, réveille cette église. Réveille mon cœur, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. On n'est pas encore le quart de la moitié de ce qu'on devrait être comme témoignage pour ta gloire, Seigneur. On est encore trop confortable, ô Dieu. Trop arrêté, trop assis, trop petit. Trop petit avec nos petites gagas, nos petites chicanes, nos petites rancunes, nos petites bébites. Dieu veut faire une belle œuvre au milieu de nous. C'est le temps d'aller dans la prière. C'est le temps de planifier. C'est le temps de confesser. C'est le temps d'apprendre de Néhémie. Et quand le roi a demandé à Néhémie, « Néhémie, qu'est-ce que tu veux maintenant? » Je termine là-dessus. Regardez la finesse, la sagesse de cet homme-là. Il n'a jamais parlé de Jérusalem. Il n'a même pas mentionné Jérusalem. C'est parce que Jérusalem, la capitale, si on la reconstruit, les murs, ça pourrait impliquer un paquet d'affaires. Il est sage, avec finesse. Il a parlé avec son cœur. Il a parlé avec son cœur, il a parlé de ses pères. Au verset 3, il dit que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères? Est-ce que tu vas être indifférent à ça, roi Artaxerxès? Mes ancêtres, mes pères, t'honores ça? Lorsque cette ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et plus loin encore, lorsque le roi lui demande « Mais qu'est-ce que tu demandes? » Au verset 5, il dit « Si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Si Dieu a ouvert tes yeux, ne sois pas impulsif. Use de finesse. Sois sage. Planifie. Attends le moment de Dieu. Calcule le prix avant de t'engager. Dépose ce prix-là dans ton cœur devant Dieu. Sois prêt à tout risquer. Après, on va commencer le vrai travail. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as quitté ta gloire pour mon salut. Pour mon salut, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je quitte pour te suivre, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je quitte pour t'obéir, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je te donne et que je t'abandonne, Seigneur. Qu'est-ce que je dois risquer? Qu'est-ce que je dois mettre en péril pour pouvoir reconstruire? Dis-le-moi, Seigneur. Parce que déjà, Seigneur, ma fidélité t'est assurée. Mon allégeance t'est acquise. À cause de la croix, Seigneur. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur Jésus, mourir pour moi est un gain parce que j'ai Jésus-Christ. Et je veux marcher à ta suite. Montre-moi, Seigneur Jésus. Montre-moi, Seigneur Jésus, ce que je dois t'abandonner pour pouvoir reconstruire. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.